19 octobre, il est 17h30, c'est l'heure de l'aérospatiale animée par nul autre que moi-même, et oui, je me nomme Julie Gagné. Comme à l'habitude, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Jacques Gignac qui fait la mise en onde de l'émission. Je suis aussi accompagnée par la chroniqueuse de cette semaine, Dominique Savoie. Bonjour!
Salut!
Comment vas-tu?
Ça va bien!
Qu'est-ce que tu es allée voir cette semaine?
Je suis allée voir l'exposition de Caroline Guindon à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval.
Tragédie fantôme, tu vas nous en parler.
Exactement.
En fin d'émission. Au cours de l'émission aussi, on rencontre François Chevalier qui va nous parler de son exposition « Méchant loup » présentée à la Galerie Lacerte. Félix Leblanc va terminer sa chronique la semaine dernière faire la partie qu'il n'avait pas eu le temps de faire sur le mouvement Low Bros, c'est intéressant, c'est le mouvement sourcil froncé. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être exactement. Et on est aussi accompagné par nul autre que Éric Dorion qui vient nous présenter sa chronique audio de la semaine, mais aussi qui va nous parler de Atom, un spectacle de performance médiatique qui sera présenté en fin de semaine à la salle Multi. Bonjour Éric.
Bonjour Régé, les sourcils
froncés. Ça paraît dans ta voix. Comment vas-tu?
Ça va super bien. Tu veux-tu entendre parler du disque
aujourd'hui? Oui, je veux entendre parler du disque, effectivement. De quoi nous parlais-tu?
Ben oui, la sélection de cette semaine, c'est un disque qui est sorti en 2003, en fait. Il a été enregistré en 2003, il est sorti en 2004. C'est un disque qu'on retrouve sur l'étiquette Victo, qui est la maison de disques des productions plateformes qui organise le festival de musique festival international de musique actuelle de Victoriaville. J'ai choisi ce disque là parce que c'est un des concerts mémorables que j'ai assisté au FIMAV. Le disque s'appelle Tout le monde en place pour un set américain. Ça regroupait
C'est intriguant, voilà, un set américain.
Assez intriguant. En fait, ça regroupait Xavier Charles, qui est français, qui est clarinettiste sur cet album-là. On entend la clarinette aux surfaces vibrantes et au microphone. Surface vibrante, c'est un terme qui est utilisé peu fréquemment, mais tout de même, son dispositif pendant le spectacle, c'était... c'était une table avec du vent et il envoyait des balles de ping-pong dessus et ça donnait des dynamiques assez intéressantes, là. Ça donnait un effet percussif. Et puis bon, il utilisait un microphone, il frappait dessus, machin. Ensuite, il y avait Diane Labrosse qui est quand même une vétéran de la musique actuelle. Je pense que le premier album date de 79 avec Diane Labrosse. J'ai eu l'occasion de jouer quelques occasions avec Diane. Elle joue de l'échantillonneur. Ensuite, Cariole Rieusec et Jean-Christophe Camps qui font un duo qui s'appelle Christophe K-Roll, donc Christophe Carole.
Oh!
Jean-Christophe et Carole. Donc, c'est un couple dans la vie. Eux font le dispositif électroacoustique. Bon, là, c'était dispositif électroacoustique, mais au final, c'est vraiment électronique. Et également, ils faisaient la spatialisation en temps réel pendant le spectacle. Et il y avait Martin Tétrault. Je pense que c'est la deuxième fois que je passe une pièce de Martin Tétrault à ton émission.
Je crois que oui.
Martin Tétrault, qui est un vétéran.
Le masculin s'impose.
Du tourne-disque. Et le tourne-disque, vraiment, on parle pas de DJ, on parle pas de quelqu'un qui fait du wouch-wouch-wouch et du whoop-whoop-whoop-whoop et de DJ, mais on parle plutôt de quelqu'un qui travaille plus de façon concrète. Elle va travailler directement sur le moteur du tourne-disque, de la table tournante. Va échanger les aiguilles et puis va mettre des bouts de fil de métal. Donc, il travaille vraiment la matière concrète.
Il expérimente. C'est ça,
absolument.
La table tournante en tant qu'objet
voilà.
Qui produit des sons.
Voilà, 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 voilà. Et des fois, ça n'empêche pas de faire également, il va évoquer des trucs, il va mettre un disque. Et d'ailleurs, le titre de l'album, je le répète, Tout le monde en place pour un set américain, vient d'un extrait d'un disque utilisé pendant le spectacle, qui était un disque de Rigaudon. Et puis à un moment donné, ch'tac, ça a sorti, c'est Tout le monde ensemble. Blablabla. Puis c'était assez comique, mais en même temps, ça a bien ressorti, puis ça a donné une dynamique qui était haute. Là. Et le spectacle, c'était la première fois qu'il présentait un spectacle comme ça au Festival de musique actuelle de Victoriaville. C'est-à-dire, le dispositif était au milieu de la salle. Donc, il y avait le stage dans le milieu de la salle et chaque artiste avait une caisse de son, donc il était diffusé dans une caisse de son, et puis les deux électroacousticiens s'amusaient à changer les caisses de son, donc, et puis il y avait une dynamique comme ça dans la salle, et puis il y avait invité également les gens à se promener, donc c'était pas statique du tout, on n'était pas obligé d'être assis, il avait demandé aux gens de pouvoir se lever, de se promener dans la salle, et puis donc, dès que tu marchais un peu et tu faisais le tour de la scène, ben t'avais différentes écoutes
différents sons.
Donc là maintenant,
c'est presque une installation.
Oui, oui, absolument. Oui, c'est vraiment un dispositif. Là maintenant, ce type de dispositif-là, on le retrouve assez régulièrement. C'est-à-dire, en tout cas, dans le milieu de la musique actuelle ou de la musique expérimentale ou de l'art audio. Mais c'était quelque chose de fantastique. Durant l'émission, on va entendre en fait deux extraits des deux pièces de l'album, puisque la première pièce a été divisée, je pense qu'elle fait 21 minutes, puis la deuxième pièce fait 28 minutes. Ouais. Faut dire que le spectacle durait une heure.
Avec une pause.
Et il n'y avait pas de pause. Okay. Donc, on l'a séparé de façon arbitraire, là, pour savoir un peu. Donc la première pièce, et je vais vous dire le titre des pièces, puisque la pièce numéro 1 s'appelle Présentation, qui dure 2 minutes 29. Donc, on entend Michel Levasseur du FIMAV présenter le spectacle. La pièce numéro 2 s'appelle Tous. La pièce numéro 3 s'appelle En place. Et la pièce numéro 4 s'appelle Clap Clap, qui dure 1 minute. Et c'est les gens qui applaudissent.
Ah et, ouais, hein? T'as pas eu envie de nous mettre la pièce 1 ou 4?
Non, j'ai choisi pour vous ce soir la pièce numéro 2, Tous, et la pièce numéro 3, En place. Donc, les deux premiers extraits vont venir de la pièce Tous.
On écoute un extrait immédiatement.
De Tous.
Bonjour à l'émission L'Aérospatiale. On vient d'entendre un extrait de Tous qui est tiré d'un spectacle qui s'appelait Tout le monde en place pour un set américain à la suggestion de notre chroniqueur Éric Dorion. Mais Éric Dorion, dans la vie, vous savez, il ne fait pas uniquement des chroniques à l'Aérospatiale. C'est un homme très, très, très occupé et notamment, il présente un spectacle. Il fait partie plutôt d'un spectacle de performance médiatique qui sera présenté le 23 octobre à la salle Multi de Méduse. Un spectacle qui s'appelle Atome. Éric, c'est une série de performances médiatiques. À quoi est-ce qu'on s'attend?
Bon, écoute, en fait, pour rajouter, on va dire une série de performances littéraires d'art médiatique.
Oh, c'est là, t'ajoutes un...
Ouais, je rajoute un petit peu de... Un petit peu de sel.
Ben ouais.
Donc, en fait, c'est quelque chose qui a été préparé il y a 2 ans par les productions Rhizome qui sont situées à Québec et qui fêtent leur 10e anniversaire cette année.
Bien sûr, on a rencontré Simon Dumas la semaine dernière.
Voilà, Simon Dumas
sujet-là,
qui est le cofondateur et directeur artistique. Et puis, en fait, le projet d'Atome, c'est Rhizome qui a invité, il a fait une coproduction avec 3 artistes belges, dont 2 auteurs et un vidéaste plasticien qui s'appelle Thomas Israël. Les 2 auteurs sont Pascal Leclerc et Bertrand Pérignon. Et donc, l'idée, c'était d'inviter ces artistes-là au Québec, de créer une œuvre par auteur Rhizome, en fait, le type de spectacle qu'il prépare, c'est de mettre de la littérature et de mettre l'auteur en situation de performance. Donc, on met un auteur qui est habituellement, les auteurs, les écrivains sont habitués d'être devant leur machine.
Mais ou, ouais. Ou encore de réciter et de tout réciter. Simplement devant le public.
Mais là, le mandat de Rhizome, c'est de justement de sortir un peu de cette sphère-là et puis de créer des œuvres avec les auteurs. Et donc, ces œuvres-là vont mélanger, vont faire de la pollinisation, si tu veux, multidisciplinaire. J'aime pas le mot multidisciplinaire, mais on va plutôt dire numérique ou médiatique. Donc, on va faire un mélange de cinéma, de vidéo, art audio. On va faire également un mélange d'art numérique pur, là, c'est-à-dire reconnaissance de mouvement ou donc et bon éclairage et tout. Ouais. Et donc la proposition qui est faite le 23, c'est l'accumulation des quatre performances. Donc il y a une performance qui est de Simon Dumas.
Fait d'art.
Qui s'appelle Fait d'art. Et donc là-dedans, c'est un texte qu'il a écrit à propos. Finalement, c'est tout une réflexion sur l'image, sur la photographie.
Sur l'image qui reste après qu'elle soit disparue.
Voilà.
La disparition.
Et donc, là-dedans, c'est véritablement vidéo, son. Moi, je travaille sur sa pièce. Donc, je fais l'environnement sonore, la spatialisation. Dans une des quatre pièces, entre autres, aussi, c'est avec Bertrand Pérignon. Bertrand Pérignon, qui est écrivain, lui fait vraiment une performance qui est corporelle et qui est dans le dit aussi, qui est dans le... Et donc, encore là, il y a Mathieu Terrien à la contrebasse, il y a moi à l'environnement sonore, et il y a Thomas Israël qui a fait l'intégration vidéo. Et puis la troisième performance est de Pascal Leclerc qui présente Stand-On, qui est un peu un mélange, si vous voulez, de j'irais vous dire un mélange de Blair Witch Project, c'est quelque chose assez ténébreux, un peu post-apocalyptique, peu dans la mouvance, qui est assez rythmé, qui utilise aussi un comédien de Québec qui s'appelle Silvio Manuel Arriola, qui fait une performance vidéo là-dedans qui est superbe. Et puis, il y a une pièce que j'ai composée, donc une pièce qui est uniquement audio, qui n'a pas de vidéo, et qui est une pièce en quadrophonie sur un texte de Claude Gauvreau. Mais en fait, c'est un extrait du livre, du seul roman qu'il a fait, Claude Gauvreau, qui s'appelle Beauté baroque. Et puis, c'est un moment clé du roman. Donc, c'est le moment dans lequel il rencontre le mari de son amante. Et puis qui a envie de le tuer, et donc qui lit
une grosse tension dramatique,
hyper tension dramatique, et qui est lu de quatre façons différentes par Christian Lapointe, que vous connaissez pour
qui
son travail de mise en scène. Et donc il y a quatre émotions donc il lit exactement le même extrait du texte, mais avec des émotions différentes. Et donc, ça donne... Et le tout, donc, c'est, si vous voulez, c'est un amalgame d'atomes qui se regroupent et qui donne un spectacle qui dure environ 1h, 1h20, et puis qui est très dynamique. En tout cas, je le conseille. Et en plus, c'est la première fois qu'il va être présenté en totalité ici à Québec.
Oui, parce qu'il a été présenté en Belgique.
Il a été présenté deux fois en Belgique, une fois à Paris, cinq fois à Montréal et pour la première fois à Québec.
Donc, c'est une primeur. Et en plus, ben, vous aurez l'occasion d'entendre le travail d'Éric Dorion, mais aussi des collaborateurs d'Atome.
Voilà.
On le répète, c'est présenté à la salle Multi de Méduse ce samedi, le 23 octobre à 19h30. Si vous êtes intéressé, les billets sont en vente sur Billettech.
Oui, et c'est dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres.
Exactement. Voilà. Et aussi dans le 10e anniversaire des productions Rhizome.
Mais je vous avertis, il n'y aura pas de petits lutins dans notre spectacle.
Non, ben tant mieux, voilà. On n'en voudrait pas de toute manière.
Ah, merci.
Merci beaucoup, Éric. Je te souhaite un très bon spectacle en fin de semaine.
Allez.
De notre côté, on écoute encore un autre extrait de la pièce « Tous » qui est tiré de l'album « Tout le monde en place pour un set américain » sur les ondes de CKRL 89.1.
Yeah.
On vient d'entendre un deuxième extrait de l'album « Tout le monde en place pour un set américain ». C'était la pièce « Tous » qui est tirée en fait d'un spectacle qui a été fait par Xavier Charles, Christophe Carole, Diane Labrosse et Martin Tétrault. Ça avait été présenté au FIMAV en 2003. Et là, on est rejoint par Félix Leblanc qui veut compléter en fait la chronique qui avait été annoncée la semaine dernière. Tu voulais nous parler? Bonjour Félix.
Bonjour Julie.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Alors, puisque les minutes coulent, je pense qu'on va être capable de juste enligner le sujet de cette chronique.
Ben oui, allons-y. Tu nous parles du low, bro. Oui, là, moi, je me questionne.
Écoute, volume 1, hein, parce que c'est volumineux. Il y a du stock, il y a de la viande, c'est épais, OK? C'est un volume qui est assez épais. Le mouvement du low brow. Je vais effleurer le sujet encore une fois, parce que la semaine prochaine, ça va être la continuité. Pas la semaine prochaine, on parle
non,
du 2 novembre.
Non, hein?
Faut pas que je promette des choses, parce que j'ai les pieds dans les plats.
Parce que okay. T'es pris pour remplir les promesses.
Oui. Mais bon, voilà, on va amorcer ça. Écoutez, le lowbrow, c'est l'art, c'est un mouvement d'art qui émane de la Californie, tout ça, et de 1965. Mais tout d'abord, je vais vous parler un peu de ma jeunesse.
Oh.
Dans une contrée reculée, dont je ne nommerai pas nécessairement le nom. En fait, je suis né d'un psychologue et d'une sorcière herboriste hippie. Hein? Alors, ma jeunesse, mon Dieu, je l'ai passée à dessiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai été très teinté, si tu veux, par le Thrasher Magazine, okay, et le Fangoria, qui sont deux magazines états-uniens. Un sur la culture du skateboard et l'autre sur la culture du gore, hein, le cinéma d'horreur sanglant. Alors, je fais un constat dans tout ça. On est comme dans une société qui est alimentée par le risque, hein, la vitesse, les sensations fortes et la sexualité. Bon. Donc, mon répertoire d'images, depuis que je suis tout jeune, moi, je suis teinté par... ça s'est produit, ça a été imbibé par... Par exemple, on peut parler de ces dualités-là. Les Gremlins versus Démétane, par contre, par exemple. OK, c'est deux choses qui se mélangent. Les G.I. Joe versus Vendredi 13. Hein? Et on pourra comme relever ici que la baronne dans G.I. Joe ressemble à Nana Mouskouri. Il y a des mélanges improbables. Les filles de Caleb versus Super Mario Bros.
Ouais.
OK. Bon, tout ça fait une mélasse, si on veut. Ça fait une créature composite qu'on peut nommer à juste titre la culture pop surréaliste. OK. Donc, voilà l'intro à ce mouvement d'art qui est le lowbrow.
Hey, tu vois ça de plus en plus intriguant.
On rentre là, dans le vif de la forêt. En fait, le lowbrow, ça veut dire sourcil froncé. OK. Le highbrow, ça veut dire sourcil haussé. Bon, lowbrow voulant dire sourcil froncé. Ça veut dire qu'on regarde la chose avec un petit peu de dégoût, de désapprobation, parce que ça fait pas partie de l'art, si tu veux, qui provient des institutions. Les beaux-arts sont un peu exclus de ça. Le lowbrow, c'est de la culture pop. Donc, et le highbrow, c'est quelque chose qui provient du musée. C'est du Louvre,
ouais,
par
de l'institution, carrément.
Donc,
de l'underground.
OK. Nos sourcils sont en l'air, on est heureux et contents. Donc, vulgairement, c'est un peu ce que ça évoque, le mouvement lowbrow. Tout ça nous fait descendre à 1943 et je vous parle d'un Californien du nom de Robert Williams, un nom très commun. Et qui est né justement à Albuquerque en 1943, est fondateur officiel du mouvement du lowbrow. Ok, à ce moment-là, il était un petit peu délinquant. Alors il s'est retrouvé à un moment donné, on fait sa jeunesse assez rapidement, mais il s'est retrouvé avec une affiliation avec un certain Ed Roth. Ok, en 1965, il s'est mis à fréquenter des écoles d'art bon marché. Si tu veux apprendre un peu la technique des maîtres, mais à la rapide, là, si tu veux, en condensé. Donc, il reçoit des formations très intenses et il sait peindre. Alors, voilà, il se retrouve dans la culture du hot rod et des voitures modifiées avec un certain Ed Roth, qu'on connaît, OK, de par sa figure iconographique, du monstre qui conduit un véhicule qui fait beaucoup de boucanes, un monstre qui... Bon. Ça, c'est Rat Fink, le personnage Rat Fink. On connaît peut-être. Ou inconsciemment, on le connaît. Lowbrow a beaucoup rapport à l'inconscient ici. Donc, c'est des références parfois qu'on va gober sans le savoir. Hein, bon. Mais c'est curieux parce qu'en bon, en 65, c'est ça, il rencontre Ed Roth, il commence à faire beaucoup de peinture pour des publicités, tout ça, et ça commence à être pas mal teinté par les substances et mm-hmm. le psychédélique.
Ben oui, on est dans les années 60, ne l'oublions pas.
Mais si vous voulez, j'ai un volume ici qui peut être une belle introduction et qui est retrouvable à la Co-op Zone. Moi, je l'ai acheté là, dans le fond. Ça s'appelle Weirdo Deluxe. C'est un volume qui donne une initiation en surface du lowbrow. Donc, les artistes principaux du lowbrow. Et ça se termine par M. Robert Williams. Donc, on voit à la fin, comme qui est un peu le père de ce mouvement-là. Je vous en mets plein les yeux. Malheureusement, bon, vous êtes à la radio, vous ne pouvez pas le voir.
Mais il y a Internet quand même.
Oui, et retenez ce nom, Robert Williams. Vous pouvez faire image dans Google et vous allez en retrouver. Voilà. Donc,
qu'est-ce qui caractérisait son art, hein? Moi, je suis curieuse parce que là, tu parles un peu de pop, tu parles un peu de contre-culture dans une certaine mesure, d'années 60.
Ben, c'est pas... C'est, mon Dieu, quel discours ça entretient, ce type d'art-là? OK, on est un peu là-dedans. OK, de quoi ça jase? Ça va jaser vraiment de ce qu'on connaît. Puis le vocabulaire esthétique, là, c'est souvent... On parle souvent de pictural, OK? Il y a très peu d'artistes lowbrow qui vont donner dans la sculpture. Moi, je dessine. C'est pour ça que ça me touche, c'est pour ça que je suis là puis je vous en parle. C'est que ça touche beaucoup au pictural et d'une certaine façon à une technique qui est impeccable pour représenter les signes, les symboles, les icônes du quotidien. Depuis 65, donc on s'évertue à créer différentes variantes du lowbrow. Le 2 novembre, j'ai le projet ambitieux de faire amener M. Dan Bro en studio pour qu'il nous en parle. OK, je ne suis pas tout seul à aimer ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui aiment ça. Mais voilà. Comme volume qui pourrait s'introduire très bien à vous donner une idée, qui est un survol des artistes. Donc, il y a Weirdo Deluxe. Mais si vous tapez Lowbrow dans Google, bonne chance. En fait, là, c'est ça, il va y avoir énormément de propositions là, dans les images. Mais commencez par Robert Williams. Je pense que c'est une bonne intro. Et Robert Williams a fricoté aussi avec le Zap Comics Collective. C'est un collectif de BDistes un peu cru, si on veut, dont le fameux Robert Crumb, qui est un personnage détestable et incroyablement honnête. Vous devriez voir donc la participation de Robert Williams au Zap Comics Collective, qui justement œuvrait plus dans le coin de San Francisco à ce moment-là. San Francisco a toujours été effervescent là, à ce niveau-là, au niveau du lowbrow. C'est un haut lieu du lowbrow. Donc, voilà. Si vous avez des questions, sûrement vous avez des questions.
Ben moi, en fait, parce que là, tu parlais de pop, hein, de tout ce, qui est quotidien, mais là, on s'entend, c'est pas lowbrow, ce sera pas dans une perspective de pop à la Andy Warhol ou encore à la Liechtenstein avec une esthétique vraiment léchée. Quand on parle de pop, c'est vraiment comme un pop quotidien ou plus pop des bas-fonds ou à quoi ça réfère comme type de quotidien, ben, en fait?
Moi, je dirais que c'est le quotidien qui se rapporte souvent, ben, comme c'est ça, là. Robert Williams, lui, était vraiment, il marinait là, dans la culture des voitures modifiées et du hot rod, OK? Moi, ouais. Je ne suis pas vraiment là-dedans. Je peux, même si on me définit comme un artiste du lowbrow, on m'a déjà nommé comme, tu sais, appartenant à ce mouvement-là, je ne suis pas là-dedans. Mais il y a différents, je vous dirais, le spectrum est large, OK? Mais c'est parce que Warhol, en fait, avec ses cannes de soupe, bien sûr, il touchait le public de l'institution, puis il voulait un peu s'inscrire dans le livre, dans le dictionnaire.
Dans le réseau officiel.
Oui, puis il était quand même, je pense qu'il avait bénéficié d'une éducation là, quand même assez notoire au niveau des arts visuels. Puis c'est ce qui fait vraiment la nuance avec les artistes de lowbrow, c'est que souvent, c'est des autodidactes.
Ah, voilà!
Voilà! Alors voilà, c'est souvent des autodidactes qui font de ce... qui appartiennent à ce mouvement-là. Alors, on peut parler de ça. Parce que oui, Warhol, Liechtenstein, ben oui, c'était pop. Alors, voilà. Mais bon, on s'arrête là. Hein?
Oui, puis on a le projet ambitieux de faire venir Dan Bro pour en parler.
Non, le 2 novembre, il viendra.
Le 2 novembre?
Mais oui.
Voilà, on confirme presque déjà sa présence.
Alors, Merci.
Si vous avez des commentaires, si vous avez des réflexions, des questions, etc., vous pouvez toujours nous écrire à notre toute nouvelle adresse de l'aérospatiale. L'adresse est simple, aérospatiale.ckrl@commercial.gmail.com. Ça me fera plaisir de vous répondre ou de transmettre aux invités ou aux chroniqueurs vos commentaires. De notre côté, on s'en va en pause. On se retrouve de l'autre côté pour jaser avec François Chevalier de son exposition « Méchant loup » chez la CERT.